Lecture pour vous. Des romans roses à écouter dans le noir. Une émission conçue et réalisée par Fernand Bailhac. Sur CFM, tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Amis auditeurs, lecteurs assidus ou occasionnels, retrouvez avec Lecture pour vous le plaisir de vous faire raconter une belle histoire, comme quand vous étiez petit avant de vous endormir. Coup double d'Edgar d'Orsay. Résumé des chapitres précédents. La Côte d'Azur, ce n'est pas seulement le paradis des casseurs de banques. C'est aussi l'endroit privilégié pour les réseaux de prostitution de luxe tenus par les milieux d'Europe de l'Est. Olia, jeune ukrainienne de 28 ans, en sait quelque chose, elle qui est tombée dans le piège. Heureusement que dans le réseau d'Oleg et de Grégor, elle n'a qu'un rôle de comptable et de traductrice bien utile pour la couverture commerciale de la bande. Malgré sa liberté relative, elle se sent prisonnière loin des siens et désespère de pouvoir s'échapper. Chapitre 5. Les Ondines. À Villefranche, les Ondines, c'était un club nautique réputé qui offrait de multiples activités à ses adhérents. Natation de loisirs, natation de compétition, natation artistique, water-polo, plongée sous-marine. Elle offrait aussi des services très complets pour les adhérents et les invités. Bar, restaurant, sauna, massage et relaxation. La cotisation d'entrée était d'un prix très élevé, ce qui garantissait une sélection de la clientèle. Évidemment, le bar et la grande terrasse de la piscine étaient un des terrains de chasse privilégiés des callgirls du coin. On pouvait y trouver en permanence deux ou trois des pensionnaires de l'organisation. Mais ça, Olia ne le savait pas quand elle s'inscrivit comme adhérente de base. Elle fut tout de suite saisie par l'ambiance, plutôt calme, et le luxe tranquille qui régnait dans ce club. On trouvait à peu près toutes les tranches d'âge parmi les habitués. Il y avait bien sûr les représentants de la jeunesse dorée de la côte, les héritiers des grandes fortunes, mais aussi les vieux couples de la grande bourgeoisie, retraités cossus et silencieux, uniquement préoccupés de se faire bronzer au soleil du midi. Quelques éphèbes aussi, des gentils fils de famille en vacances permanentes, et d'autres dragueurs impénitents. Heureusement, il y avait aussi les vrais sportifs, ceux qui passaient des heures à effectuer inlassablement des longueurs dans le bassin olympique, encouragés par les entraîneurs, le chrono à la main. Les trois grands bassins étaient séparés par de vastes étendues de pelouses vertes, peuplées de bosquets fleuris et de grands pins. Il y avait aussi plusieurs grandes terrasses garnies de matelas de plage et de rocking chairs, ou des barmettes en bikini venaient vous apporter vos rafraîchissements. Chaque tranche d'âge avait son territoire et ses habitudes. Plutôt que de s'installer dans la zone du club où se retrouvaient la plupart des jeunes filles et des jeunes femmes, le plus souvent magnifiques, et comme disputant des concours de beauté statiques et provocants, Olia prit l'habitude de mettre son transat à proximité du bassin olympique, finalement plus calme, d'où elle pouvait admirer, sur fond de mer Méditerranée, la beauté de ces sportifs, moins préoccupés de flirt que d'entraînement. Elle y venait désormais assidûment passer 4 heures les après-midi. Elle-même nageait régulièrement et améliorait ses propres performances. Malgré sa misère morale, et grâce à sa vie équilibrée, elle était redevenue superbe, et aussi attirante que la plupart des pin-ups qui fréquentaient ces lieux. Elle restait la plupart du temps solitaire. Son attitude, très réservée et sévère, décourageait à l'avance les inévitables approches masculines qu'elle ne manquait pas de susciter. Elle en souffrait néanmoins puisque une de ses principales préoccupations était de dialoguer et d'échanger avec des Français. Un samedi après-midi, elle observa l'attitude prudente et comme détachée d'un des moniteurs de natation qui venait de finir l'entraînement. Elle vit bien, derrière ses lunettes, que ce garçon souhaitait venir lui parler et engager la conversation. C'était un homme plutôt jeune, dans les 30 ans peut-être, de taille moyenne, mais très bien proportionné, musclé, dynamique, très souriant. Il avait l'air gentil. Ça faisait plusieurs semaines qu'elle le voyait encourager un groupe de nageurs, une douzaine de gars et de filles, qui formaient, semble-t-il, un groupe fort sympathique. L'ambiance entre eux paraissait très saine et très joyeuse. Après plusieurs hésitations, elle observa, amusée, ce garçon finit par s'approcher d'elle, poliment. Vous permettez que je m'asseye à côté de vous un instant ? Je vous en prie, faites, dit-elle en relevant la tête. Excusez-moi, mais je vous ai vu nager, et je trouve que vous êtes, très doué. Je suis un des moniteurs du club, et je voudrais savoir si vous ne seriez pas intéressé pour rentrer dans l'équipe féminine du club. Elle sortit ses lunettes de soleil et le regarda de près. Il avait l'air vaguement intimidé malgré son aspect très mâle. Elle esquissa un maigre sourire. Elle chercha ses mots avant de lui répondre avec un tout petit accent. « Vous pensez que je suis capable de figurer parmi toutes ces jeunes filles ?» J'ai appartenu à un club de natation, mais il y a longtemps déjà. Oh, n'exagérez pas, ou alors vous parlez de bébé nageur. C'était à l'étranger, peut-être. J'aime bien votre accent. Justement, j'aimerais bien le perdre, cet accent russe. Je m'en doutais, mais c'est très joli, vous savez. Vous passez vos vacances à Nice ? Non, j'y habite, j'y travaille. Ah, tant mieux, parce que le club cherche des gens qui soient capables de rester plusieurs années. L'ambiance est très bonne, vous savez, et pour les étrangers, ça permet de se familiariser avec beaucoup de monde. Dans notre club, d'ailleurs, on a plusieurs épouses et filles d'hommes d'affaires étrangers qui vivent à Nice et dans le coin. Si vous êtes un peu seul, vous pourrez vous faire des relations facilement, je crois. Il y a des Russes ou des Ukrainiennes ? Vous savez, je préfère ne pas les rencontrer, sinon je n'arriverai pas à perdre mon accent et à parler un bon français. Non, on n'a pas de Russes ni d'Ukrainiennes. Je crois qu'il y a des Libanaises, des Italiennes, 3 Américaines et 1 Suédoise. Oh, bien sûr, il y a les Anglaises. Et j'ai oublié les Françaises. Elle semblait soulagée et cela l'intrigua un peu. Elle réfléchissait, le regard au loin un peu triste. Et il fut frappé de cette mélancolie, de cette langueur tellement évidente qu'il mit sur le compte de son caractère slave. Sa beauté naturelle lui en parut encore plus grave et mystérieuse. Dans le long silence, il proposa joyeusement. « Oh, restez là surtout, je vous apporte un rafraîchissement en signe de bienvenue au club. Je m'appelle Serge Bruand. Vous m'appellerez Sergueï, n'est-ce pas ? Et ça sera un martini pour vous ?» Déjà, il se levait et brusquement, elle se décida. Lui saisit la main comme une noyée saisit sa dernière chance. Je vous fais confiance, ce que vous voudrez. Une simple menthe à l'eau. Moi, c'est Olia. Elle mit un bon moment de trop à relâcher sa main. Il intercepta un regard de détresse qui le bouleversa. Et elle lui rendit la paix d'un simple sourire d'amitié. Elle le suivit des yeux joyeux et dansant presque de tout son corps musclé en direction du bar. Elle fouilla du regard autour d'elle en quête de quelque espion malfaisant. Rien. Quand il revint vers elle, les mains encombrées de 2 manteaux, il l'observa, allongé sur le dos, faisant semblant de ne pas le voir. Et il ne put s'empêcher de se délecter de la forme si émouvante de son corps. « Olia, réveillez-vous. » Elle s'étira voluptueusement en retirant ses lunettes et en faisant voler ses cheveux mi-longs. Il apprécia en connaisseur. « Une vraie star zarine ? Pas facile à dire ça en français. Elle rit pour la forme. Starzarin, Starzarin. Il y a des mots plus difficiles que ça en russe, vous savez. Il reprit. Au bar, j'ai entendu parler russe et il m'a semblé... Trois filles vraiment superbes, j'avoue. Vous les connaissez peut-être? Elles viennent régulièrement ici. On ne peut pas les ignorer. Vous avez envie de faire leur connaissance? Eh bien, moi, je ne le conseille pas, à moins que vous n'ayez beaucoup d'argent à perdre. Mais moi, je peux vous apprendre le russe, gratuitement, si vous le voulez. Ah, c'est d'accord. Et en échange, je vous corrigerai votre accent. Ce sera dommage, mais enfin. Un peu de gaieté lui revenait au fil de la conversation. Son goût de vivre, d'être avec quelqu'un d'autre dans un rapport amical, de confiance, de séduction jouée. Tout simplement d'être considérée comme une vraie femme, jeune, désirable et libre, juste un instant. Enfin, pensa-t-elle, après la si longue période d'enfermement psychologique qu'elle venait de passer depuis presque 6 mois. Il s'arrêta brusquement en plein milieu d'une plaisanterie. Il venait de percevoir l'alliance derrière la bague un peu moche à son annulaire gauche. Il ne put s'empêcher de souffler. « Mais vous êtes marié, je ne veux pas vous ennuyer, je préfère... »« Pas de mal, ne vous inquiétez pas. Il est très jaloux, mais il me fait vaguement surveiller. Il faut que je sois rentré à 8 heures à la maison. Je dois me préparer à partir d'ailleurs. Et merci pour la boisson et pour la conversation aussi. C'était très agréable. Je vous donnerai mon accord pour l'équipe de natation, demain peut-être. On se reverra ici en début d'après-midi. Il balbutia tout choqué, de vagues remerciements lui aussi. Il était rose de confusion et de bonheur juvénile. « Ah, surtout, ne me suivez pas jusque chez moi, hein. Si ça m'apercevrait immédiatement. Et on ne pourrait plus se voir pour les leçons de franco-russe. »
CFM. Lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h.
Olia négocia avec Ivan son accord pour passer plusieurs soirées par semaine aux Ondines. Il connaissait le club et savait que plusieurs pensionnaires de la troupe y venaient régulièrement pour le travail, et qu'elle pourrait le renseigner sur le comportement et les fréquentations de Olia. Comme ça, on gagnait des heures de surveillance. D'ailleurs, Ivan trouvait que ça se passait très bien avec elle, qu'elle faisait exactement son boulot et que ses sorties l'équilibraient. Par expérience, il savait que les pions neurasthéniques étaient les plus fragiles et les plus dangereux pour l'organisation. Oleg n'eut qu'à accepter les ordres du patron. La semaine suivante, Olia, plus belle que jamais, donnait son accord et entrait dans l'équipe féminine, où elle fut très bien acceptée par les autres femmes. À des détails qui ne trompent pas, elle s'était vite aperçue que la Russe et le moniteur Serge avaient une certaine sympathie réciproque, et donc qu'Olia ne constituait pas un danger pour leurs copains ou leurs amants. Olia eut vite fait aussi, en quelques semaines, de prouver son excellent niveau de nageuse, ce qui valoriserait le club dans les compétitions locales. Serge était enchanté de sa nouvelle recrue et la conseillait très intensément. Il allait jusqu'à nager avec elle pour l'entraîner individuellement. Il était plein d'attention et de gentillesse avec elle dès qu'il se séparait du groupe. Il la sentait triste et angoissée. Avec des moments de joie enfantine et spontanée. Les charmes de l'âme slave, quoi. En fait, ils n'avaient que peu de temps à passer ensemble. 3 soirées par semaine. Le mari ayant accepté ces nouvelles conditions. Et aussi le samedi après-midi. Serge travaillait dur à son bureau d'études à Nice. Et il se précipitait aux Ondines sur sa moto dès qu'il avait fini. Pour partager un repas de copains juste avant l'entraînement avec la tsarine. La passion de la moto était un de leurs sujets favoris. Olia avait une Yamaha 125, une petite routière confortable et sûre, qu'elle maniait avec dextérité et prudence sur les routes enlacées. Serge s'était acheté une Honda puissante qui lui permettait de se rendre rapidement sur les chantiers et de se faufiler en ville en évitant les encombrements. Chacun enviait la moto de l'autre et il se les prêtait volontiers. Parfois, ils faisaient un tour sur la même moto, ce qui leur permettait de se serrer l'un à l'autre, sans se donner d'explications sur le plaisir qu'ils y prenaient. Bien sûr, Olia n'était pas insensible à ce beau gars si gentil et si prévenant, elle qui était privée d'amour depuis si longtemps. Ses plaisirs passagers et inavoués devenaient pour Serge un problème, sachant que Olia était mariée et qu'il ne voulait pas la compromettre. Ne sachant pas où tout ça pouvait le mener, il s'en tenait à une attitude composée de camaraderie attentionnée, du moins au début. Pour lui, la côtoyer en permanence, dans les bassins, sur les transats, au restaurant du club, et la serrer en moto ou être enlacé par elle, tout ça devenait rapidement un supplice de dental. Plus il la connaissait, plus il en devint épris et fou de désir comme il ne l'avait jamais été. Finalement, il n'en dormait plus et se demandait comment sortir de cette situation. Les mêmes tourments agitaient, on s'en doute, Olia. Elle avait vite deviné que Serge la chérissait. Elle savait désormais qu'elle aimait Serge et que cet amour allait compliquer terriblement une situation déjà désespérée. Jusqu'ici, elle avait réussi à lui cacher sa véritable identité, sa tragédie et l'impasse dans laquelle se dirigeait son idylle avec lui. Mais elle avait déjà renoncé à tant de choses qu'il lui paraissait impossible de renoncer à cet amour. Elle passait des nuits blanches à ruminer tout son drame, sans compter que sa chasteté commençait à lui peser sérieusement. Progressivement, elle en vint, malgré le danger et les risques pour elle et sa famille, à se décider de donner des explications véritables à son ami. Cela représentait non seulement un risque décisif pour elle et sa sécurité, mais aussi, vraisemblablement, une épreuve terrible pour leur amour. Elle retardait l'instant de cet aveu qui avait toutes les chances de se transformer en un adieu définitif. Pour l'instant, elle ne connaissait pas assez Serge pour s'imaginer s'il résisterait à une telle tornade. Dans un ultime acte de lâcheté, elle décida qu'avant de le quitter, elle s'abandonnerait à lui, corps et âme. L'occasion se présenta à 10 jours de là, sous la forme d'une invitation à un baptême de plongée sous-marine organisé par le club. Il fallait être disponible 48 heures en semaine. Le bateau de plongée irait jusqu'à Port-Cros, une des îles au large de Hyères, sur un site qui avait été reconnu comme facile pour initier ces dames à la plongée sous-marine. On prendrait le bateau à Cavalaire et on coucherait en camping sur une plage au sud-ouest de Port-Cros. Il y aurait 7 filles et 3 moniteurs, dont Serge, qui prit spécialement des vacances pour cette sortie. La semaine avant, Olia redoubla d'efforts et mit toute la comptabilité à jour. Elle préféra passer par Ivan pour que Oleg ne la coince pas. On était en fin de saison, mais le temps était radieux. Elle attendit 2 jours, fébrile et anxieuse, l'accord d'Ivan et d'Oleg pour sa permission de 48 heures. Elle aurait sauté de joie comme une gamine en apprenant qu'elle pouvait partir, si ce n'avait été que ces 2 jours seraient vraisemblablement les derniers qu'elle passerait avec Serge. Quand elle lui annonça qu'elle pouvait l'accompagner, ses yeux gris étaient pleins de tristesse, poignante et pathétique. Il chancelait lui aussi, bouleversé par des sentiments contradictoires et d'autant plus déstabilisé qu'il ne comprenait pas la raison d'un tel trouble. Alors que depuis longtemps ils avaient déjà renoncé l'un à l'autre, ils se mirent d'accord pour aller à Cavalaire sur la Honda.
Avec notre passé pour guide, devrais d'être lucide. Mais notre méfiance est à bout. L'amour est bien plus fort que nous.
Qu'on espère ou qu'on se résigne. Quand il le veut, il nous désigne. Voilà, ça devait être à nous. L'amour est bien plus fort que nous.
De mystère et le vent du soir est plus doux. L'amour est bien plus fort que nous.
Vivre libre en un marécage ou vivre heureux dans une cage. Qu'importe, il fait son choix sans nous. L'amour est bien plus fort que nous.
Suffire pour ne plus aimer de le dire. Pourtant, ça devait être à nous. L'amour est bien plus fort que nous. C'est pour guider.
On croyait qu'il pourrait suffire.
On se devrait d'être lucide.
Pour ne plus aimer de le dire.
Mais notre méfiance est à bout.
Voilà, ça devait être à nous.
L'amour est bien plus fort que
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 6, Porquerolles. Olia et Serge se donnèrent rendez-vous de très bonne heure ce mardi matin. Elle le serrait de toutes ses forces, amoureusement collée à son cuir de motard. Jamais une route de septembre ne lui avait paru plus belle. Il conduisait très prudemment, tout au plaisir de la pression de ses bras, de son casque qui s'appuyait à l'épaule. Ils étaient finalement en avance et il mit un clignoteur pour s'engager dans un petit chemin de terre et de cailloux, dans un sous-bois de pins. Il arrêta la moto, à l'abri de quelques arbousiers, et ils descendirent pour faire quelques pas. Ils avaient ôté les casques, mais n'osait pas se regarder. Il sortit de sa coche une bouteille d'eau, et quand il la lui tendit, il vit qu'elle pleurait. Lui-même se sentit envahi d'une grande émotion, et ne put retenir ses propres larmes. Ils restèrent là un instant, complètement dépassés par ce qui leur arrivait, à se regarder pleurer, à effacer par des petits gestes tendres la peine qu'ils ressentaient. Ils s'embrassèrent avec gravité. Leur premier baiser
était un baiser d'adieu. Ils repartirent sans un mot. Dans le port de Cavalaire, les deux voitures étaient déjà là, et les filles sirotaient leur premier café de la journée. Tout le monde s'embrassa chaleureusement, excité comme une bande de gosses. Les deux moniteurs s'affairaient sur le bateau de plongée et vérifiaient les matériels qu'ils utiliseraient. C'était de l'équipement du club qu'une camionnette avait apporté spécialement pour eux. Enfin réunis, ils embarquèrent et firent connaissance du capitaine, un habitué des parages. Celui-ci fournissait le matériel de camping et tous les vivres nécessaires à leur équiper. Il n'était pas loin de 10 heures et le soleil commençait à chauffer sérieusement sur une mer très calme. On était en retard sur l'horaire, comme d'habitude, mais la bonne humeur et l'excitation faisaient partie du voyage. Après une traversée sans histoire, si ce n'est que Katia, la jeune Suédoise, râlait d'avoir oublié sa crème solaire, et que Catherine, l'Anglaise, commençait à avoir le mal de mer, tout l'équipage chahutait et se délectait de ce spectacle merveilleux à l'approche des îles aussi sauvages que l'aube du monde. Le bateau mouilla dans l'anse déserte, et le petit Zodiac débarqua le matériel de camping, ainsi que tous les passagers. Les couleurs de l'eau et le joli soleil étaient fantastiques. On voyait le fond à le toucher, tellement l'eau était pure et transparente. La plage n'était pas très vaste, mais bien abritée du vent, et le capitaine leur indiqua les meilleurs emplacements pour monter les tentes. Le feu était interdit sur l'île, si bien qu'ils devaient faire à la cuisine et manger à bord. On se répartit les places dans les tentes. Serge et les deux gars dans une, Olia et Katia dans une autre, et les 5 autres filles dans la plus vaste et la plus haute. L'eau était encore très tiède pour la saison et tout le monde se retrouva en maillot pour le premier bain. Était-ce le sentiment d'île déserte? Peut-être entre copains privilégiés? Bon, le haut des maillots des filles fut vite abandonné sur le sable. On était loin du club et des conventions habituelles. Les filles s'aspergeaient de rire et d'éclaboussures de diamants qui se liquifiaient au contact de leur peau. Les trois gars s'étaient lancés dans une compétition de crawl jusqu'à l'entrée de la crique. Au retour, ils rentrèrent dans le groupe des filles au milieu d'une gerbe d'écume, comme des marsouins dans un banc de sardines. Les trois gars enlevèrent chacun une fille, dans une cacophonie de cris et d'éclats de rire, pour les déposer pantelantes et piaillantes sur le sable. Les autres attendaient les prédateurs, impatientes, en criant de l'eau à mi-cuisse. Olia s'était un peu écartée du groupe, en s'amusant elle aussi de la jolie scène. Au troisième voyage, elle fit un signe à Serge, qui l'a compris d'avance. Elle ne se laisserait emporter que par lui. Ils furent les derniers à revenir sur la plage, mais leur gravité répondait mal aux rires et aux injonctions du reste du groupe. « Un baiser! Un baiser !» C'était clair pour tous, plus que pour eux peut-être. Ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Le repas du midi fut vite expédié. Il fallait profiter au maximum de la douceur de cet après-midi. À bord du bateau, le calme et le sérieux revinrent avec les consignes techniques de sécurité et les conventions de communication par geste pendant la plongée. On essaya les palmes et les respirateurs, puis tout le groupe s'immergea une fois arrivé à une petite encablure d'un promontoire rocheux. L'endroit était d'une beauté sauvage colorée et minérale. À peine le ressac minuscule faisait-il une broderie de dentelle blanche aux rochers rouges vifs qui s'enfonçaient dans la mer. La mer. Était-ce la mer, cette matière de reflets et de transparence qui passait du vert le plus clair à l'indigo le plus angoissant en quelques brasses seulement? La mer, était-ce cet animal fabuleux dont le dos respirait lentement dans une sieste primitive? On plongeait dedans, et c'était comme si on visitait clandestinement le cerveau et les rêves de ce monstre caché. Des cauchemars de couleurs et de formes inconnues, des délires de chaos, de concrétions et de coraux caressés des molles forêts de lianes et d'algues. Des bancs de sards et de girelles, quelques vieilles, fardées de zébrures multicolores, le monde des couleurs, des secrets et des menaces douces, le fond nocturne qui attire là-bas, plus loin, plus profond, plus séduisant qu'une tentation de suicide. L'ensemble, rempli du sourd gloussement des bulles, des expirations mal maîtrisées, des rugissements ridicules bâillonnés, des nageurs en train de commenter et de s'extasier, de s'indiquer les uns aux autres les merveilles mille fois découvertes, les gestes tendus vers l'ombre glissante d'un mérou, la démarche comique d'une langouste, le petit ludion d'un hippocampe entre trois algues flottantes, le fouet gris et bleu d'une murène à l'œil rond et jaune qui se déploie, horrible, jusqu'à la caverne de son rocher, où les rascasses immobiles et camouflées comme les dragons chinois. Pour les filles, dont la plupart n'avaient pas eu encore accès à de tels paysages, l'entrée dans cet univers était une révélation inoubliable, comprise entre le plaisir d'observer les détails inédits de chaque chose et la pulsion d'en découvrir toujours de plus neuves, plus loin. Les trois moniteurs avaient du mal à maintenir dans le champ de surveillance cette troupe indisciplinée de si parfaites sirènes. Pour les moniteurs, le spectacle le plus délicieux n'était ni dans le miracle des fonds, ni dans le ciel mouvant et lumineux de la surface. Il était tout simplement entre deux eaux, dans l'harmonie innocente et sensuelle de ces cornues au visage de cyclope, en lévitation ondoyante, où ne pesaient ni les seins roidis, ni les chevelures déployées, ni les membres faits d'algues roses et d'ocre.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h.
Serge remonta à la surface pour estimer la distance et la configuration de la côte. C'était une chose entendue avec ses deux collègues. En compagnie d'Olia, il s'éloignerait du groupe et s'isolerait un moment à terre. Il devait se parler seul. Michel et Jean-Jacques rabattirent donc leur scie, leur laille, d'un côté, tandis que les deux amoureux se défilaient en surface vers une minuscule anse toute proche. Ils atterrirent sur ce bout de sable, seuil d'un abri de roche taillé pour l'amour. Ils se déharnachèrent et se découvrirent, mouillés et tremblants, dans un face-à-face crucial. Olia pensait. Lui dévoiler mon corps ou mon âme en premier. Serge la réchauffait déjà de ses bras et retardait parmi les baisers le moment de l'aveu. Ils prononcèrent leur prénom en même temps, sourirent et s'embrassèrent. Elle l'entraîna sur le sable. Ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Les vaguelettes haletaient régulièrement sur le sable mouillé, tel un tendre prélude. La corne du bateau les réveilla, qui sonnait le rappel. Ils se remirent à l'eau, sous les tentures mauves, parmes du crépuscule. L'eau était sombre et chaude, et ils nageaient de conserve dans le bonheur. Accoudés au bastingage, les autres les attendaient, un verre à la main. « C'est à cette heure-là qu'on rentre, vous n'avez pas honte? Vous avez rencontré un sous-marin ou quoi? Vous ne trouviez plus l'île? Vous êtes entraînés au bouche à bouche ?» Ils riaient comme des fous. Nos deux amants, un peu penauds, réclamèrent des serviettes de bain. « Allez, maintenant tout à table, le pistou est servi. » Ils rentrèrent à la nuit tombée au campement. Katia, la Suédoise, prit les devants. « Je vais échanger ma place avec Serge, je sens que je vais... « Avoir froid cette nuit. Michel et Jean-Jacques vont me faire une petite place entre eux, j'en suis sûr. » Charmante attention qui permettait à Olia et à Serge de se retrouver dans la petite tente, seuls. Il n'y avait pas à discuter. Les autres filles gloussaient comme des petites dindes, en chuchotant des bêtises dans l'oreille. Si la nuit n'était pas tombée, on aurait pu voir combien Olia était gênée, mais tellement reconnaissante de cette série de circonstances. Pourtant, une grande angoisse l'envahit, car c'était maintenant ou jamais qu'elle pourrait tout dire à Serge. À la lumière des torches, ils transportèrent la petite tente et leurs affaires le plus loin possible du campement pour ne pas gêner le repos de leurs camarades. Sitôt un nouveau baiser échangé, Olia, d'un air particulièrement tendu, lui déclara « Serge, nous avons très peu de temps, juste cette nuit devant nous. Et tu dois connaître des choses très importantes sur moi, sur ma vie, avant que nous nous engagions davantage dans cet amour. Je sais que tu m'aimes comme moi je t'aime, et c'est pour ça que tu vas m'écouter, sans m'interrompre. Mais, après ce que je vais te dire, je ne t'en voudrais pas si tu me quittes, si tu renonces à moi. » Et elle commença à lui raconter par le début sa tragique aventure et le destin terrible qui s'abattait sur elle depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Allongés l'un contre l'autre, leurs visages se touchant presque, dans la nuit de l'attente, sa narration prenait une dimension de cauchemar. Serge se sentait submergé par un sentiment de colère, tellement envahi d'un désir de vengeance qu'il crispait les poings à s'en faire mal. Serge était si bouleversé qu'il se retenait d'éclater en sanglots, de crier sa haine. Il se sentait comme écrasé par une malédiction à peine imaginable. Et pourtant, il la croyait. Quand elle eut tout fini, dans un immense soulagement et une immense tension dans l'attente de sa réaction, elle continua de pleurer en silence. Alors il se tourna vers elle pour sécher ses larmes et la couvrir de baisers. Le seul mot qu'il lui dit fut « Olia, je t'aime, et même si je dois y laisser la vie, je te sortirai de là ». Et tu retrouveras ta fille et ta mère, je te le jure. » Ils s'unirent à nouveau, puis finirent par trouver le repos et la paix.
rendez-vous pas en vous comme un nouveau rendez-vous. Une nouvelle voie, un horizon de joie. N'entendez-vous pas l'appel du bonheur qui ruisselle? C'est un frisson ardent, un frôlement d'éveil. Sentez-vous pas en vous comme un nouveau rendez-vous? Voir, se voir, recevoir, se revoir et avoir le parfum de l'amour, le septième ciel pardi. Ne sentez-vous pas en vous comme une nouvelle envie? N'entendez-vous pas en vous vos folies qui s'émerveillent à la vue d'une branche qui vous compte de fleurettes? N'entendez-vous pas en vous un égo, c'est égal, ex aequo, c'est alors un match bien amical. Sortons des palais et cessons d'être moches. Ne sentez-vous pas en vous une pluie de plaisir? Respirons du bonheur. Pluie de plaisir, faire bon vent, ce d'amour se digère toujours. Et ce faisant, faisons taire la peur, respirons du bonheur, respirons du bonheur. Ne sentez-vous pas en vous comme un vent d'allégresse? La jalousie poursuit too much harmonie. Et ce faisant, digère toujours. Et ce faisant, faisons taire la peur, transpirons du bonheur, respirons du bonheur.
Est-ce que nos deux amants vont arriver à lutter contre les mafieux russes et libérer la belle Olia de leurs griffes? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode de Coup Double, le nouveau roman d'Edgar d'Orsay, sur CFM, le mardi 22h et le dimanche à 15h. Vous pouvez aussi réentendre cet épisode sur le site de cfmradio.fr à la rubrique Lecture pour vous. Les illustrations musicales de cet épisode étaient un extrait du film Un homme, une femme, musique de Francis Lay, un extrait du film Le Grand Bleu, le thème, et Le Nouveau Rendez-vous, par Orlando. Joanne, qui était à la mise en onde, et Fernand vous disent au revoir pour la prochaine émission de Lecture pour vous sur CFM.